Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. En raison des changements climatiques, de nombreux bouleversements affectent maintenant toutes les régions du monde. Pour en savoir plus sur la nature des répercussions dues au changement climatique, notamment dans le domaine de la santé, j'ai le plaisir de recevoir M. Serge Planton, membre de l'association Météo et Climat. Bonjour Serge.
Bonjour.
Serge, pour le commun des mortels, climatologue contient le mot climat, et donc nous en déduisons simplement que vous travaillez sur le climat. Pourriez-vous nous présenter plus précisément ce qu'est un climatologue et peut-être aussi un météorologue?
Oui, effectivement, parce que je suis moi-même météorologue de formation à l'origine, mais aussi climatologue. Donc un climatologue, de manière générale, c'est un scientifique, effectivement, qui étudie le climat. Mais encore faut-il savoir ce que c'est que le climat. Alors, moi, en tant que météorologue de formation, donc j'ai travaillé en fait à Météo France, et pourtant, dans mes études climatiques, je n'ai pas fait de la météorologie, parce qu'il faut distinguer les deux notions. Alors, quelle est la différence? Principalement, c'est que on peut dire, pour faire simple, que la météorologie c'est l'étude du temps qu'il fait ou qu'il fera à un moment donné et à un lieu donné. Alors que le climat c'est la moyenne du temps qu'il fait. Et ça peut être sur une période de temps qui va de finalement à peu près du mois jusqu'à pourquoi pas plusieurs millions d'années si on étudie le climat planétaire à des échelles de temps très longues. Alors donc pour autant on peut pas dire que tous les climatologues sont nécessairement des météorologues. Parce que le climat varie aussi à cause de variations qui ont lieu dans les océans, qui ont lieu dans les glaces, qui ont lieu dans la végétation, ce qui fait qu'on trouve des climatologues parmi les océanographes, parmi les glaciologues, parmi les écologues, mais aussi d'ailleurs des chimistes, parce que la chimie atmosphérique, ça a aussi une influence sur certains aspects du climat, et puis d'autres disciplines encore. Donc on peut dire que les études climatiques sont vraiment des études multidisciplinaires.
Merci Serge pour ces éléments de réponse qui maintenant nous permettent de mieux cerner vos activités. Revenons, si vous le voulez bien, sur le sujet des changements climatiques et leurs impacts sur l'environnement et les sociétés humaines. Pourriez-vous brièvement nous résumer la nature de ces changements et leurs impacts?
Alors, je pense qu'il faut commencer par dire que le climat, par nature, est très variable. Alors, donc, on connaît des grands cycles dans les évolutions climatiques. Alors, les plus importants sont ceux qui font alterner des périodes froides. Ce sont des périodes qu'on appelle glaciaires parce que la Terre est couverte de grandes étendues de glace. Et des périodes chaudes, comme la période actuelle d'ailleurs, ce sont les périodes interglaciaires. Et ces périodes se succèdent avec, depuis au moins 800 000 ans, mais probablement encore davantage, plusieurs millions d'années. Elles se succèdent à peu près tous les 100 000 ans. Et on sait que les variations de température, j'insiste un peu sur ces périodes-là, parce que les variations de température, on les a évaluées, elles sont de 4 à 7 degrés à l'échelle planétaire. Et ça donne un ordre de grandeur, finalement, d'une évolution pour un climat qui varie de manière très importante, puisque quand même, à ces périodes glaciaires, le niveau des océans était quand même 130 mètres plus bas. Donc, évidemment, la végétation était très différente, même... En Europe, on avait plutôt des paysages de toundra, en Europe de l'Ouest et ce qui est aujourd'hui la France. Mais justement, je cite cet ordre de grandeur parce que du fait des activités humaines, eh bien, à cause de l'émission plus particulièrement de certains gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère, et en particulier le CO2 qui est celui qui a le plus d'importance parmi les gaz à effet de serre qui sont émis par les activités humaines, eh bien, on pourrait avoir un réchauffement à la fin de ce siècle, du 21e siècle, qui serait là aussi de 4 à 5 degrés plus important que la température que l'on a connue à la fin du 19e siècle. Ça veut dire que les activités humaines finalement produiraient en 250 ans ce que la nature a produit en fait en 10 000 ans lorsqu'on est passé du dernier âge glaciaire, il y a 21 000 ans, au début de notre interglaciaire, c'est-à-dire il y a 10 000 ans. Donc 10 000 ans d'un côté du fait de variations naturelles et 250 ans du fait des activités humaines pour un ordre de grandeur de réchauffement équivalent. Mais à condition de se situer sur le scénario du pire, hein, le scénario d'émission de gaz à effet de serre le plus important. Parce que là, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir sur quel scénario d'émission on se situera dans les toutes prochaines années, et dans la première partie de ce siècle, parce que ça va conditionner les évolutions qu'on va avoir après 2050. En France, en particulier, on a calculé que d'ici à 2050, quel que soit le scénario d'émission, on aura le même réchauffement à peu près que celui qu'on a eu au XXe siècle, c'est-à-dire de l'ordre de 1,3 degré lorsque on prend le réchauffement entre 1900 et 2000, par rapport donc au réchauffement qui est attendu entre 2000 et 2050. Et puis, par contre, après 2050, on pourra avoir un réchauffement qui varierait d'un facteur 4, suivant le scénario sur lequel on se situerait. C'est-à-dire, avec le scénario sobre en émission, on resterait à ce réchauffement. Finalement, la température finirait par se stabiliser, elle n'augmenterait plus après 2050. Alors que si on est sur le scénario, un scénario qu'on peut appeler un scénario laissez-faire, dans lequel les émissions, finalement, ne sont pas bridées, bien dans ce cas-là, on aurait un réchauffement qui pourrait être 4 fois plus important. Voilà, donc on est sur des ordres de grandeur de 4 à 5 degrés aussi à l'échelle de la France par rapport à la fin du XXe siècle. Alors donc les premières conséquences à attendre du réchauffement, que ce soit le réchauffement qu'on ne peut pas éviter, c'est-à-dire indépendant du scénario d'ici à 2050 ou après 2050, celui qui dépend de nos émissions prochaines, bien on aura de toute façon une augmentation des épisodes de vagues de chaleur, mais évidemment beaucoup plus importantes si on est sur les scénarios d'émissions les plus forts. Et donc, augmentation des vagues de chaleur qui seront à la fois plus fréquentes, plus intenses, plus longues. Et aussi, autre particularité en France, côté extrême, ce sont aussi les sécheresses qui pourraient être inédites. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas connu dans le passé des sécheresses par rapport à celles auxquelles on peut s'attendre si on est là encore sur le scénario du pire. Par contre, bon, le pire n'est pas sûr puisque on ne fait pas le constat que les vents forts pourraient être augmentés en intensité ou en fréquence. D'ailleurs, comme on fait le constat que ça n'a pas été le cas non plus au XXe siècle, il n'y a pas eu d'évolution en tendance sur de longues périodes de temps, en tout cas, qui soit vraiment marquée. Voilà. Donc, ces risques-là liés aux événements extrêmes, ce sont les premières conséquences avec des impacts ensuite qui vont se faire sentir. Bien en particulier dans beaucoup de secteurs de la société, en fait, hein. En particulier l'agriculture. Je viens de parler de sécheresse. L'agriculture est très sensible à ces périodes de sécheresse. Donc, et puis, je ne l'ai pas évoqué, mais aussi quelques épisodes d'inondation qui, là, on ne peut pas dire que de manière systématique, les inondations seront plus forcément plus intenses, mais on sait que dans certaines régions, oui, ça pourrait être le cas, notamment d'après l'état des calculs actuels que l'on peut faire. On s'attend à ce que le soit, on risque d'avoir un risque de curue éclair augmenté dans le sud-est de la France, notamment. Bien donc là aussi, avec des conséquences sur l'agriculture, des conséquences sur l'industrie, bien entendu, qui peut être affectée. Le changement climatique, d'une manière générale, avec même le réchauffement et la fonte de la neige, ça a des influences sur le tourisme. Et puis, bien sûr, sur le bien-être des populations. Alors, à cause des répercussions des événements extrêmes sur la santé, ça c'est une première raison. Et puis, des effets du changement climatique sur les écosystèmes naturels. Donc, ça affecte aussi le bien-être des populations. Donc, parce que l'impact des activités sur les écosystèmes naturels, ça peut s'accompagner aussi de bouleversements de la biodiversité avec des conséquences aussi sur la santé humaine.
Je vous entendais là, vous avez parlé d'inondation et je me pose une question. Bon, il pleut, ça c'est la nature, il pleut, c'est normal. L'eau s'écoule, c'est aussi normal, c'est la fonction de la rivière ou du fleuve d'évacuer l'eau vers la mer. Mais inondation, ça veut dire préjudice à la société humaine. Est-ce que c'est vraiment un problème lié au changement extrême, ou est-ce que c'est plutôt l'homme qui ne s'est pas adapté à la nature et urbanisé à sa façon?
Alors, c'est vrai que dans certaines régions, les inondations peuvent être aggravées localement du fait des écoulements qui sont plus rapides, des aménagements même autour des fleuves. Ne serait-ce que, par exemple, le fait de faire une digue, même de protection, si cette digue n'est finalement pas dimensionnée pour une inondation particulièrement sévère et que l'eau passe par-dessus cette digue, bien la digue va retarder ensuite le retour de l'eau dans le lit de la rivière. Là, c'est une conséquence, finalement, alors qu'on pense se protéger, en fait, on aggrave de fait le risque. Donc, il est évident que les aménagements urbains ont un impact. Mais c'est un impact quand même secondaire par rapport à l'impact lié à la météorologie. Mais une météorologie, pas simplement de manière instantanée, parce que les inondations dépendent aussi des précipitations de la saison qui précède, d'un effet d'accumulation en fait de l'eau Dans les nappes, c'était le cas des inondations de la Somme, par exemple, au début des années 2000. Donc, c'était parce qu'il y a eu des hivers successifs qui avaient été particulièrement pluvieux qu'on a eu ces inondations. Donc, il y a différents types d'inondations, différents types de crues. Et ce dont on sait que sur le changement climatique peut avoir un impact, eh bien, ce sont plutôt sur des épisodes extrêmes de précipitations. Et comme je le disais tout à l'heure, en particulier dans le sud-est de la France, des études récentes, mais qui demandent quand même à être confirmées, qui montrent que des épisodes extrêmes, pas forcément plus intenses si on les prend à l'échelle quotidienne, seraient plus intenses si on les prend à l'échelle horaire. Ça veut dire que on aurait des précipitations concentrées sur des épisodes de temps plus courts. Et donc là, les crues éclairs, justement renforcées aussi par les écoulements plus rapides, pourraient être plus sévères dans les conditions de changement climatique. Alors qu'on ne peut pas affirmer que partout en France, le risque d'inondation va augmenter. Les études actuelles ne démontrent pas cela.
Alors pour en revenir à votre définition de la climatologie, où l'échelle de temps, c'est des siècles ou des milliers d'années, donc là, vous nous dites qu'on est dans une période de réchauffement climatique. La particularité, c'est que la progression naturelle, l'augmentation des degrés, est accélérée par l'activité humaine. Mais on est quand même dans un cycle de réchauffement climatique, ou pas?
Alors en fait, non, parce que si on prend vraiment les grands cycles glaciaire-interglaciaire, là, on est dans une phase qui devrait à peu près, qui devrait être une phase où la température culmine. En fait, on est plutôt un maximum de température de notre interglaciaire. Simplement, on sait qu'il peut y avoir des variations, il y en a eu, en particulier il y a 6000 ans, les températures étaient légèrement plus élevées qu'à la fin du 19e siècle. Il peut y avoir des fluctuations à ces échelles de temps de plusieurs millénaires, mais on a atteint plutôt la période maximale de température que l'on peut connaître au cours d'une période interglaciaire. Et on devrait, donc, s'il n'y avait pas eu de perturbations humaines, retourner à une période glaciaire à partir de 20 000 ans par rapport à aujourd'hui. La durée de notre interglaciaire aurait dû être, du fait de facteurs naturels, longue d'à peu près une trentaine de milliers d'années. Donc par contre, des paléoclimatologues et des climatologues ont calculé que du fait des émissions de gaz à effet de serre, notre interglaciaire pourrait être prolongé de 10 à 20 000 ans supplémentaires parce que on réchauffe le climat et même certains s'interrogent sur la question de savoir si la calotte groenlandaise ne pourrait pas fondre complètement. Et si elle fondait complètement, il n'est pas sûr qu'elle se reforme, même lorsqu'on entrera dans la phase glaciaire qui est liée simplement à la variation des paramètres orbitaux de la Terre. Voilà, donc il y a une perturbation possible liée aux activités humaines, même pour ces grands cycles-là. Mais par contre, on ne peut pas parler vraiment d'accélération d'un réchauffement qui serait dû à des cycles naturels actuellement. Le calcul a d'ailleurs été fait sur à partir de 1950 jusqu'à 2010. Les scientifiques ont montré que si on ne prenait en compte que les facteurs naturels, et donc la variabilité solaire, la variabilité volcanique, puis la variabilité du système climatique dans son ensemble, la température aurait dû rester à peu près constante sur cette période. Or, la température a augmenté. Alors, si je parlais de la période 1950-2010, sur cette période-là, c'est à peu près 0,6 degrés. Et il a été démontré qu'on ne pouvait pas expliquer cela autrement en faisant intervenir les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, tout en prenant en compte aussi l'augmentation de la pollution atmosphérique qui a plutôt tendance à refroidir le climat, la pollution liée aux particules qui se forment, qui sont liées là aussi à des activités humaines, des particules carbonées, sulfatées liées à l'industrie, liées au transport. Ces particules-là ont plutôt pour effet de refroidir en moyenne le climat. Il faut prendre en compte cet effet refroidissant plus l'effet donc des gaz à effet de serre qui l'emportent de réchauffement pour arriver à expliquer ce réchauffement d'à peu près 0,6 degrés, comme je le disais, sur la période 1950-2010.
Alors on parle de réchauffement, mais on ne parle pas de refroidissement. Je m'explique, on a le Gulf Stream le long de la France. Ça nous donne un climat tempéré. Et ce que j'ai compris, c'est que le Gulf Stream était généré par la fonte des glaces de pôle Nord et ça crée des courants marins. S'il n'y a plus rien à fondre, ça veut dire que ce courant s'arrête. On part dans quel climat alors, au niveau de la France?
Alors c'est pas exactement ça le mécanisme. En fait, le Gulf Stream, effectivement, existe de manière naturelle, bien sûr. Il s'explique pour une part par les variations de densité de l'eau. Donc là, il y a effectivement un lien, quand même, comme vous le disiez, avec la fonte de la glace, dans la mesure où la fonte de la glace amène de l'eau douce et dans l'océan, salée, et alors que ce soit d'ailleurs la fonte de la banquise ou la fonte des calottes polaires. Et cette eau douce a tendance plutôt à stabiliser ce courant et donc à diminuer son intensité. Par contre, ça n'explique qu'une part, en fait, de ce courant, à peu près 20%, à peu près un quart de son intensité, 20-25%, un cinquième à un quart de son intensité, et les quatre cinquièmes, ou les trois quarts, c'est lié, en fait, au vent. C'est le vent à la surface de l'océan qui entraîne les eaux qui venant des régions tropicales et qui ensuite contourne le bord ouest océanique le long des côtes d'Amérique du Nord et qui revient ensuite vers nous comme un courant relativement chaud jusqu'au milieu de l'Atlantique. Enfin, après, le Gulf Stream change un peu de nom. On appelle ça la dérive nord-atlantique, mais c'est cette dérive nord-atlantique qui atteint nos côtes. Voilà. Donc, ce courant, il existe naturellement. L'effet du réchauffement climatique, ce pourrait être de le ralentir à cause des changements de densité de l'eau, comme je le disais, du fait de la fonte des glaces. Plus d'eau douce dans l'Atlantique Nord, cela entraîne donc un ralentissement du courant.
Ça veut dire modifier notre climat ou pas?
Alors, les calculs qui ont été faits, toutes les projections faites actuellement par les scientifiques du GIEC montrent qu'il y a bien cet effet de ralentissement du courant qui se produit dans les projections. On voit par ailleurs dans certaines simulations jusqu'à un refroidissement dans l'Atlantique Nord dans certaines régions pour certaines saisons, mais qui varie d'une simulation à l'autre. Par contre, cela n'affecte pas, enfin en tout cas, ça ne se traduit pas par un refroidissement sur les régions continentales voisines, donc ni en Amérique du Nord, ni en Europe de l'Ouest. Parce que là, l'effet de réchauffement qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre l'emporte. Mais le réchauffement, il est vrai, serait plus important s'il n'y avait pas cet effet modérateur, en quelque sorte, qui est lié à la modification des courants. Par contre, ce n'est pas suffisant pour inverser la tendance.
D'accord, c'est pas suffisant. D'accord. Serge, dans les discussions concernant le climat, on omet souvent de parler des impacts sur la santé, sur les services de santé et les services sociaux. Pourriez-vous mettre en lumière pour nos auditeurs quelques-uns des nombreux impacts les plus importants pour vous liés à des changements climatiques dans le domaine de la santé?
Alors, dans le domaine de la santé, il faut à nouveau évoquer les effets du changement climatique, la traduction du changement climatique en termes de changement d'événements extrêmes, puisqu'il y a des événements extrêmes qui affectent directement la santé. Alors, pratiquement tous les événements extrêmes. Alors, je commence d'abord par les événements qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, pas finalement affectés par le changement climatique, les tempêtes. Bien sûr, eux, les tempêtes affectent la santé, mais on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une augmentation de ces risques-là liés au changement climatique. Par contre, les canicules, les vagues de chaleur, là aussi affectent la santé, en particulier dans les villes, parce que la température des villes est plus élevée que dans les campagnes, et l'augmentation donc du risque de canicule augmente ce risque. Et augmente ce risque aussi pour certaines populations plus exposées, notamment les travailleurs qui sont obligés d'être en extérieur, même pendant des périodes où il fait très chaud, ou au contraire, dans les cuisines aussi, à des périodes où il fait très chaud. Donc, et puis, bien entendu, aussi dans les villes, ceux qui habitent dans les étages plus élevés des bâtiments sont aussi plus exposés. Voilà, donc il y a des différences, bien entendu, d'exposition, de vulnérabilité suivant les populations, mais globalement, ce risque augmente pour tous du fait de l'augmentation du risque de canicule. D'autres effets, ce sont les effets du changement climatique que j'ai évoqué sur les écosystèmes. Donc, les écosystèmes naturels sont affectés, la végétation par le risque de sécheresse, la multiplication aussi des incendies a un impact. On le voit actuellement avec ce qui se passe en Australie. Même si les feux ont toujours existé de manière naturelle, leur amplification, par contre, est liée au changement climatique. Donc ces modifications dans la biodiversité ont d'autres effets aussi sur les écosystèmes de manière générale, avec le risque de propagation de certaines maladies, puisque avec le réchauffement on voit aussi des migrations d'espèces et des migrations en particulier de vecteurs de maladies comme la tique qui est porteuse du vecteur de la maladie de Lyme. Il y a une étude au Québec qui a montré un lien avec le réchauffement et qui a fait des études, on fait des projections aussi montrant une expansion de ce risque lié au changement climatique. En France, on peut évoquer en France métropolitaine, le moustique tigre, même si, en fait, l'expansion du moustique tigre n'est pas à l'origine liée au changement climatique, elle est plutôt liée au transport. On a vu que les niches écologiques des moustiques tigres, au début de son arrivée en France, après 2014, c'était plutôt le long des autoroutes. Et c'était même voir dans les aires d'autoroute, on voyait des concentrations de moustiques. Et puis, par contre, là où le réchauffement climatique a un effet, c'est sur le maintien d'une année à l'autre des moustiques, parce que les hivers ne sont pas suffisamment froids, il n'y a pas suffisamment de jours de gel pour que les larves des moustiques soient tuées. Et donc, on les retrouve d'une année sur l'autre. Voilà, donc, il y a quand même un effet du réchauffement climatique sur l'adaptation du moustique dans des régions dans lesquelles il n'était pas au départ adapté. Voilà, donc là, avec des risques sanitaires à cause de la propagation, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais possible de maladies, c'est bien sûr, il y a des veilles sanitaires pour éviter cela, mais sur pour la chikungunya, le Zika, et les maladies qui sont portées par ce moustique. Donc, ça fait partie des risques sanitaires qu'on passe sur le changement climatique. J'en citerai un troisième important, dans mon sens, c'est celui aussi des pollens. Donc, avec le réchauffement climatique, on sait que certaines espèces végétales, ça touche là encore aux impacts du changement climatique sur les écosystèmes. Certaines espèces vont être favorisées, comme l'ambroisie. Donc, les saisons de développement de l'ambroisie, le printemps va s'étendre en durée. Et de ce fait-là, l'ambroisie va se développer. C'est le risque de pollen associé, de multiplication des pollens associés, de concentration de pollen va s'accroître. Il y a une étude qui a montré en particulier qu'en Europe, on s'attendait à un quadruplement de la concentration du pollen d'ambroisie à l'horizon 2050. Grande partie du fait du réchauffement climatique, pas simplement, mais il y a aussi la modification des paysages, enfin de l'utilisation des terres, mais en tout cas la part principale est liée au réchauffement climatique. Donc là aussi, les pollens sont partie des risques qui sont aggravés par le réchauffement climatique. Alors peut-être que dans les événements extrêmes, j'en aurais oublié un, c'est celui aussi lié aux submersions marines. Bon, là, il faut peut-être le relativiser, celui-là.
Si vous voulez bien, dans la question suivante, justement, peut-être qu'on va pouvoir aborder ce sujet. Serge, notre émission touche à sa fin, mais aujourd'hui, le dernier rapport du GIEC n'est pas rassurant. Hein. Les changements climatiques s'accentuent. Que pouvez-vous nous dire à propos de la réurbanisation probable des zones côtières et des mouvements de population sur le territoire français?
Alors oui, c'est vrai. Alors, même si je ne suis pas expert sur le sujet,
c'est des fortes tendances.
C'est un constat qu'un partage. Oui, effectivement, les chiffres montrent que la concentration des populations dans les régions côtières a tendance à augmenter, particulièrement dans ces régions-là. Et donc, ça veut dire que ces régions côtières deviennent de plus en plus vulnérables au changement climatique. Alors justement, j'évoquais le risque de submersion marine. C'est un des risques qui a augmenté du fait du réchauffement climatique, parce que le niveau de la mer augmente. Et le niveau de la mer a augmenté d'une vingtaine de centimètres au XXe siècle et va augmenter aussi d'une vingtaine de centimètres d'ici à 2050. Et là encore, comme pour la température, l'augmentation au-delà de 2050 dépend du scénario d'émission sur lequel on se situera. La dernière étude du GIEC avec le rapport sur les océans qui a été publié en 2019, donc il y a très peu de temps, à l'automne 2019, calcule que l'augmentation du niveau de la mer pourrait être entre 30 et 60 cm en 2100 par rapport à la fin du XXe siècle, si on est sur le scénario sobre en émission de gaz à effet de serre. Par contre, on passe à 60 à 1,10 m d'augmentation probable du niveau de la mer si on est sur le scénario où on laisse faire les émissions. Voilà, donc des différences quand même là qui deviennent assez importantes à la fin du siècle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut peut-être relativiser le risque, l'augmentation du risque de submersion marine. Tant qu'on est sur 20 cm, ce n'est pas très important, l'augmentation. Rappelons-nous que le Cynthia, c'était 8 mètres d'augmentation au niveau de la mer, dont 1,50 m qui était lié à la tempête et 6,50 m qui était lié à la marée. Donc 20 cm par rapport à cela, c'est peu. Par contre, si on est sur des augmentations de l'ordre du mètre, là, ça commence à devenir conséquent. Et puis, l'augmentation du niveau de la mer a d'autres conséquences, alors il y en a deux en particulier qui sont importantes, c'est l'érosion côtière qui pourrait être aggravée, là aussi phénomène naturel, l'érosion côtière, de toute façon les plages sableuses, on le sait, sont en recul en moyenne, mais avec le réchauffement climatique par exemple, il y a une étude qui a été rapporté par le collectif de scientifiques qui s'appelle Aclimatera pour la région Nouvelle-Aquitaine et qui indique que d'ici à 2050, là encore, les reculs en moyenne des plages sableuses en Nouvelle-Aquitaine pourraient être de 65 mètres en moyenne, ce qui est quand même très important. Mais pas du tout irréaliste, parce qu'en 2014, il y a eu beaucoup de tempêtes cette année-là et on a connu des reculs comparables dans certains endroits.
Et on a Soulac, par exemple, qui a connu pour ça, hein, la oui. pointe de la Gironde.
Absolument. Voilà. Et donc, l'aggravation de l'érosion côtière, là aussi, phénomène naturel, mais aggravé par le réchauffement climatique, c'est une des conséquences aussi de l'augmentation du niveau de la mer. Puis une troisième conséquence, moins connue, c'est la salinisation des nappes phréatiques côtières. Avec l'augmentation du niveau de la mer, on a une pénétration de ce qu'on appelle le biseau-salin dans les couches de sous-couches de sol, et donc jusqu'à atteindre les nappes phréatiques côtières. Et donc ça, c'est un phénomène qui a été étudié par le BRGM, qui a une cartographie de ce risque pour toutes les côtes françaises et qui identifie de grandes différences d'une région à l'autre, mais avec des régions qui sont, enfin des zones surtout, qui sont particulièrement vulnérables à ce risque, mais c'est très variable parce que ça dépend de la nature des roches, voilà, ça dépend de la morphologie des côtes. Mais donc ce travail a déjà été réalisé, on peut s'y rapporter pour voir où se situent les risques principaux.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en arrosant, je peux saler mon jardin et donc le détruire sans m'en rendre compte?
Oui, parce que c'est vrai que le sel est très destructeur. C'est d'ailleurs un problème dans les régions où on pratique aussi beaucoup l'irrigation. L'irrigation a pour effet de saliniser les terres à cause des écoulements. Et donc il y a des pays comme par exemple la Tunisie où c'est un risque avéré qui est lié finalement à l'utilisation dans certains endroits trop intensifs de l'irrigation.
Effectivement, il faut être très attentif dans tous les domaines. Écoutez,
oui,
merci
là, il faut
beaucoup.
Être attentif dans tous les domaines et surtout donc accumuler suffisamment de connaissances voilà, pour s'adapter à ces évolutions dont une part est inévitable, une part est évitable dans la mesure où comme je le disais, elle dépend des scénarios d'émissions, c'est pour le futur, mais c'est maintenant qu'il faut agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour éviter les changements les plus importants, mais sur la part qui n'est pas évitable, il va falloir s'adapter et donc il y a un enjeu évidemment de connaissance de ces risques et donc il faut aussi finalement connaître les bonnes pratiques. Ça c'est par l'expérience, par le partage de connaissances qu'on y arrive.
J'en profite, il y a une question qui me vient là, une dernière question. Vous parliez des niveaux de la mer qui s'élèvent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'eau dans les océans ou est-ce que c'est parce que l'eau est plus chaude que l'océan gonfle?
Et les deux à la fois en fait, puisque un des premiers facteurs, et c'était à peu près pour moitié au XXe siècle, c'était l'augmentation de la température qui expliquait pour moitié à peu près l'augmentation du niveau de l'océan par dilatation, augmentation du volume de l'eau, parce qu'elle est plus chaude. Mais aussi, l'autre moitié, c'est la fonte des glaciers sur les continents, donc une arrivée d'eau, de masse d'eau qui vient des continents, qui va vers les océans. Ça, je disais, c'était au XXe siècle. La part maintenant de la fonte est plus importante que la part qui est liée à la dilatation des océans. Et ça s'explique par le fait qu'on voit, on commence à voir, et on l'observe maintenant bien avec des données satellitaires, on commence à voir fondre une partie des calottes polaires dans l'hémisphère nord, mais pas seulement, aussi en Antarctique. On sait que maintenant, la fonte des calottes contribue de manière assez significative à l'augmentation actuelle du niveau de la mer.
Mais si l'Antarctique lui aussi se met à fondre, là c'est sûr que notre climat va changer.
Alors bien sûr, c'est un phénomène quand même qui a une grande inertie. C'est un phénomène qui est très lent. Hein. Dans les projections que j'indiquais tout à l'heure, on parle de 1 mètre, une augmentation de 60 cm à 1,10 m avec le scénario de plus forte émission. Ce processus a été pris en compte. Et justement, il l'avait pas été aussi précisément, parce qu'il y a de nouvelles études qui ont été faites, il n'avait pas été dans le précédent rapport du GIEC, dans le cinquième rapport, ce qui expliquait que les projections étaient un petit peu moins pessimistes pour ce scénario-là. Il y a une différence de quand même une vingtaine de centimètres à peu près dans les projections en 2100 qui vient de la prise en compte de cette fonte justement de l'Antarctique.
Alors là on parle climat mais vraiment ma dernière question. Est-ce que le climat et géologie vont ensemble? On entend parler par exemple de maisons qui sont craquelées, qui sont fondues. Est-ce que c'est lié au climat ou pas?
Alors dans certaines situations oui. Alors il y a deux situations auxquelles je pense. Une extérieure à la France, c'est la fonte des sols gelés, ce qu'on appelle les pergélisols. Ce sont des sols qui sont gelés en permanence aux très hautes latitudes, donc, dans les régions en Sibérie en particulier, dans les régions habitées du Groenland. Donc le réchauffement climatique fait qu'à certains endroits, l'eau sous forme de glace dans le sol se met à fondre, et ce qui a pour effet de déstabiliser les sols. Et effectivement, donc actuellement, c'est un risque très important pour que ça déstabilise des infrastructures routières, des bâtiments. Bien entendu, c'est un phénomène qui existe dès aujourd'hui. Mmh. Il y a une autre conséquence, une petite parenthèse pour les régions de montagne, parce que c'est le même phénomène de fonte, de ce qu'on appelle aussi le pergélisol en montagne, des sols gelés à cause du réchauffement, et qui là provoque des éboulements. Alors on en a connu dans les Alpes récemment, qui a conduit d'ailleurs à fermer pendant l'été certains chemins de randonnée. Et puis alors donc, puisque vous évoquiez les effets sur les bâtiments du réchauffement climatique, il y a un autre mécanisme qui est lié, lui, à la sécheresse. Sur des sols qui sont argileux, le fait que la température augmente et que le sol s'assèche surtout, bien ça provoque donc une rétractation du sol qui se contracte, et c'est le cas sur des sols qui sont particulièrement argileux, et ce qui a pour effet, si les fondations ne sont pas suffisamment profondes, pas suffisamment bien dimensionnées, ça peut provoquer effectivement, et ça a provoqué évidemment dans de nombreuses régions, des dommages sur les bâtiments. Et on a le phénomène inverse avec le gonflement des argiles lorsque les sols sont inondés, mais l'effet du changement climatique se traduit surtout par les effets liés à la sécheresse, la contraction des argiles.
D'accord. Écoutez, merci beaucoup Serge Planton pour votre témoignage et votre regard porté sur la question des changements climatiques et leurs impacts dans les régions du monde, dont la France.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre de l'association Météo et Climat.
Merci Serge.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.